gratis. Il y a un mois de cela, j'étais en voiture du côté de Paris pour le boulot et j'avais une heure à tuer. J'ai écouté la radio et ce jour-là, c'était la cérémonie de funérailles. Ah, tu peux appuyer sur ce bouton-là. Merci. C'est bon. Cérémonie de funérailles de Jacques Chirac, double président de la République, et c'était la cérémonie de funérailles à l'église donc Saint-Sulpice. Ça aurait dû être à Notre-Dame, mais bon, pas possible. Et je me suis dit, bah tiens, on va écouter ça. Et donc il y avait des reporters en direct, des commentateurs, des experts en direct, voilà. Il y avait toutes les peu importe la radio à laquelle j'étais, c'était toujours la même chose. Donc j'ai écouté. Il y avait les anciens chefs de la, les anciens présidents, il y avait aussi beaucoup de chefs d'État. Et je me suis dit, tiens, ça va être curieux de voir quel est le texte biblique. Je me mettais à la place de l'archevêque en question. Comment il va dire, comment on s'adresse à autant de personnes à la fois, des chefs d'État, des présidents. Et finalement, c'est le texte de Matthieu 25 qui a été choisi. Avec ces paroles de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit, avec l'histoire, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que l'on t'a vu assoiffé et qu'on t'a donné à boire? Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, conclusion de l'homélie, la prédication, on appelle ça une homélie, conclusion de l'homélie de l'archevêque, Jacques Chirac a tellement aimé les gens, il a tellement montré un amour pour les gens qu'on peut sans aucune crainte le présenter devant Dieu. On sait qu'il se fera partie des brebis. Et à nous désormais de vivre également dans la charité et la fraternité. Ok. Et ça m'a donné envie de creuser ce texte. Ça m'a donné envie d'y réfléchir. Voilà. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Alors à ma connaissance, on n'est pas diffusé sur France Inter en direct ce matin. Mais je vous propose de regarder ensemble ce texte de Matthieu 25 et de voir comment ce texte nous encourage à servir les autres, mais pas que. Et là, c'est le petit suspense. Et je vous propose de lire Matthieu 25, versets 31 à 46. Je lis dans la version second 21, à la page 639 pour ceux qui ont les Bibles à 2 euros. 1,90, je crois. Matthieu 25, 31 à 46. C'est Jésus qui parle. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous avons vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et nous n'avons pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois, vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Une question pour vous. On va discuter un peu. Quelle est, comme ça, à chaud, selon vous, l'idée principale qui ressort de ce texte? Qu'est-ce que ce texte dit quand vous le lisez pour la première fois, ou alors vous le relisez? Qu'est-ce qui sort, quoi, la première idée? Est-ce que vous avez un avis?
L'amour pour l'autre.
L'amour pour l'autre. Tout à fait, c'est effectivement un thème présent.
La compassion.
La compassion. L'amour pour l'autre, la compassion. La fraternité, pour reprendre les mots de l'archevêque, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, mais de l'archevêque à la cérémonie de funérailles de Jacques Chirac. Effectivement, tous ces thèmes sont présents. Mais il y en a un de thème qui est tellement grand qu'on ne le verrait même pas. Hein, comme un nez au milieu de la figure. Ce thème, c'est parce que ce texte nous parle avant tout d'un jugement. Il va nous parler de l'amour pour l'autre, il va nous parler de la charité. Mais le texte premier, c'est un jugement. Première partie, un jugement avant un appel à servir. T'as vu, ça marche le PowerPoint. Le retour, ce thème est évidemment présent. Ce texte nous parle d'un jugement que Jésus va exercer à son retour. Et ce passage-là, en fait, de Matthieu 25, ça va avec Matthieu 24 et 25, et c'est un grand discours que Jésus dit sur le mont des Oliviers, où justement, on a un gros package où il parle de son retour, de la « destruction » entre guillemets qu'il y aura à ce moment-là, et après, il va illustrer avec trois paraboles, trois illustrations consécutives, le jugement à venir. La première des paraboles, vous la connaissez probablement, c'est celle des 10 jeunes filles, dont 5 prévoient suffisamment d'huile et tiennent bon jusqu'au retour du marié, et 5 autres font un peu n'importe quoi et se retrouvent démunis quand le mari arrive. Première parabole. Deuxième parabole, les 3 serviteurs, de nouveau un jugement, 2 qui anticipent le retour du maître, l'autre qui laisse tomber et qui néglige de faire fructifier l'argent qu'on lui a laissé, et qui se retrouve jugé. Et troisième illustration, on arrive à Matthieu 25, le texte qu'on a lu, les brebis et les boucs. Et ces 3 illustrations qui nous parlent, avant de nous parler de la vigilance, avant de nous parler de faire fructifier les dons, avant de nous parler de l'amour du prochain, ces 3 paraboles qui nous parlent d'un jugement à venir. Ce texte nous parle avant tout d'un jugement. Aujourd'hui, l'idée d'un jugement, ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas très à la mode dans notre société. Ah si. Pour condamner les autres. Ça, c'est à la mode. Ou alors surtout pour condamner un jugement, si on parle d'Hitler, heureusement, on prie qu'il y ait un jugement. Si on parle de Staline, on espère bien que, vu les milliers de morts qu'il y a eu, les millions de morts, un jugement. Et tous les autres, on pourrait décliner. Alors ça, pour ça, l'idée d'un jugement, elle est rassurante. Mais par contre, pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans notre société. Pourtant, ici, vous avez bien vu, le roi, il juge qui? Les nations, toutes les nations, du Pays de Galles, aux États-Unis, à l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, jusqu'à la France et même le Vaucluse. Là, c'est toutes les nations, même l'Argentine. Toutes les nations sont représentées devant.
Et Madagascar.
Mais bon, on ne va pas commencer, vous avez compris l'idée. Là, voilà, vous avez... Vous avez l'Iran aussi, l'Algérie, qu'est-ce que je veux pas faire de... Vous avez compris mon idée. Toutes les nations. Personne n'est exempté, vous l'avez vu. Et surtout, il n'y a que 2 catégories. Il n'y a que 2 catégories. Il y a les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, mais il n'y a pas de 3e catégorie. Les Suisses. Il n'y a pas de personne neutre qui dit « Ah bon, ben vous, je ne sais pas trop, restez là en attendant, je vais y réfléchir. » Il n'y a pas de neutre. Soit on est contre, soit on est un bouc, soit on est une brebis. Ainsi est le jugement de Dieu. Un jugement binaire, s'il fallait le dire. Cette image du tri entre les boucs et les brebis, elle était assez connue à l'époque. C'était un travail que le berger faisait régulièrement. Les brebis et les boucs pouvaient être mélangés pendant la journée, pas de souci. Le soir, surtout quand il faisait frais, les brebis, elles aiment bien le grand air, elles pouvaient rester dehors. Les boucs avaient besoin d'être d'être retiré, d'être mis au chaud. Donc c'était une image, une illustration qu'à l'époque, c'était très parlant. J'ai essayé de réfléchir et me dis, tiens, si Jésus devait refaire cette parabole aujourd'hui, quelle illustration, on va dire, du XXIe siècle il utiliserait pour faire ce tri ? Je n'ai pas trouvé. Alors, si vous avez plus de créativité, d'imagination que moi, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, il y a bien un jugement. Tout le monde est concerné et il n'y a que deux catégories possibles. Comme dans les deux paraboles précédentes. Il y a les cinq jeunes filles qui ont gardé suffisamment d'huile et les cinq autres qui ne l'ont pas. Il y a deux catégories. Pareil pour les serviteurs. Il n'y a que deux sorts. Donc ce texte nous parle de servir, nous parle d'aimer notre prochain, on va y revenir. Mais comprenons que l'objet central de ce texte, c'est avant tout et premièrement celui d'un jugement à venir. Deuxième partie, regardons maintenant comment se fait ce jugement. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous voyez sur quel est le critère sur lequel Jésus, le roi, fait ce jugement ?
Le comportement.
Le comportement, dans un sens, oui. Pardon ?
Par rapport aux actes qu'on a fait.
Par rapport aux actes qu'on a fait. Tout à fait. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? On n'a pas l'habitude de dire ça. Hein. On va plutôt parler du salut, voilà, par la foi, que les œuvres et tout ça. Et là, moi, quand j'ai lu, ça m'a un peu, on va dire, par rapport à ce à quoi on a l'habitude d'entendre, ça m'a un peu dérangé, n'est-ce pas ? N'a-t-on pas plutôt l'habitude de parler du salut par la foi ? Et pas par le comportement. C'est bizarre, hein ? Question, est-ce que ce texte doit nous déstabiliser ? Oui, mais pas pour cette raison. Oui, ce texte doit nous déstabiliser, nous bousculer, et j'espère que vous le prouvez à la fin. Mais, s'il vous plaît, pas pour cette raison. Servons les autres, mais non pour mériter notre salut. Prenons une minute pour dézoomer. De ce passage et regarder, se rappeler quel est le message biblique que l'on retrouve dans l'ensemble de la Bible, dans les mots de Jésus, dans les écrits de Paul, dans ceux de Jean, dans l'Ancien Testament. Remettons-nous ça bien clair, ô combien la Bible est claire sur le fait que l'homme ne peut pas se rendre juste par lui-même, par ses actes, par ses œuvres, par qui il est, même ses meilleurs actes de charité. Même Mère Teresa ne pourra pas trouver justification devant Dieu de par ses actes. D'accord ? Jean-Luc Pillon l'a dit en d'autres termes, mais la semaine dernière, ici même. Alors, je ne vais pas vous citer toute la Bible, ou sinon on en aurait pour quelques temps. Juste un verset, un passage. Éphésiens 2, versets 8 à 10, un passage connu. Remettons-nous en tête, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit en effet, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, cela n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, Dieu. Nous avons été créés en Jésus pour que des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors s'il vous plaît, ne doutons pas de cette vérité centrale que Dieu dit depuis le début de la Genèse. Il dit et redit, l'homme est incapable de se sauver par lui-même, avec ses œuvres, ses actes, et le salut se reçoit par la grâce, sola gratia, encore une fois Jean-Luc Pillon en a parlé, par la foi seule. Ok ? Donc là-dessus, s'il vous plaît, c'est un texte qui dérange un peu, on va y revenir, mais gardons ça en tête et ne nous laissons pas déstabiliser à ce sujet. Maintenant, je vous propose de rezoomer sur le passage en question. On a dézoomé, là, tac, maintenant on rezoome. J'ai besoin de votre aide de nouveau. Sur quels critères les brebis sont-elles mises à droite ou les boucs à gauche ? Sur quels critères ? Regardez bien. La décision, voilà. Et la première chose qu'il leur dit, il les met face aux critères, non de leurs actes, mais de leurs actes envers Jésus. La petite nuance, je ne sais pas si vous voyez, il commence par dire le premier critère est ce qu'elles ont fait, ou pas, à Jésus lui-même. Quelle est leur attitude? Quel est leur amour? Quel est leur service envers Jésus? Et ensuite seulement, comment se manifeste, se traduit cette relation, cet amour envers Jésus, par l'amour et le service des plus petits de ses frères. Vous voyez, entre guillemets, ce qu'on va dire, l'amour pour le prochain, ce qu'on va appeler ça comme ça, arrive en conséquence de l'amour pour Jésus. Et ce que le roi dit, c'est que vous ne m'avez pas servi moi, ou alors vous m'avez servi moi. Et après, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Mais la première chose, c'est avant tout la relation, l'amour, le service envers Jésus. D'ailleurs, les brebis, elles ne sont pas surprises qu'on leur dise qu'elles ont donné à manger, à boire, visiter ou accueilli. Mais elles sont surprises qu'en faisant ça, elles manifestaient leur amour envers Jésus. Mais elles se souviennent d'avoir donné à boire, d'avoir visité. Mais elles n'avaient pas compris à quel point, en faisant ça, elles exprimaient leur attachement, leur amour à Jésus. D'accord ? Nos actes, nos œuvres, on peut prendre le mot qu'on veut, ne font en fait que révéler la vraie nature de notre relation envers Jésus et envers Dieu. Et en fait, regardez un peu, on avait exactement la même idée dans les deux paraboles précédentes. Les dix jeunes filles, dont certaines avaient négligé de garder suffisamment d'huile. Le message de Jésus dans cette parabole, c'est pas qu'il y ait la quantité d'huile. C'était surtout que ce qu'elles n'avaient pas fait manifestait leur folie et leur négligence et leur peu de confiance que le marié allait arriver. Au final, voilà, leurs actes, le fait d'avoir négligé, d'avoir fait quelque chose, traduisaient leur folie. Et c'est leur folie qui les condamne. Vous voyez la différence entre actes et ce que révèlent les actes? Pareil, j'aime beaucoup avec la parabole qu'on appelle des talents, le troisième serviteur, il le dit lui-même, hein. Il dit, ben non, j'ai rien fait, parce que j'ai pas osé, parce que tu es un maître dur, parce que j'avais pas confiance en toi. Encore une fois, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, au-delà des quelques pièces d'or, le maître n'en a que faire des quelques pièces d'or. Mais ce qui importe, c'était qu'en fait, ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait découlait simplement de la vision, de l'amour, de la confiance qu'il avait envers le maître, le roi ou le marié. Et cette parabole est à comprendre exactement de la même manière. Les actes de toute personne, nous compris, révèlent la nature de la foi, de la confiance ou de l'amour que l'on peut avoir, ou pas, envers Jésus. Les brebis, elles font confiance à leur maître. Et c'est l'image d'ailleurs qu'en Jean 10, vous connaissez ce passage, que Jésus décrit longuement, justement, toute la confiance, l'obéissance, non seulement par les paroles, mais par les actes, qu'une brebis peut avoir envers le bon berger qu'est Jésus. Donc ne nous laissons pas déstabiliser là-dessus. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus reproche au bouc ? Vous avez vu ce qu'ils reprochent ? Ils ne leur reprochent pas le mal qu'ils ont fait. Ils leur reprochent le bien qu'ils n'ont pas fait. Non. En fait, les actes que l'on fait parlent de nous, on vient de le voir. Mais les non-actes, alors je ne sais pas si c'est un terme, vous avez compris, les actes que l'on ne fait pas, révèlent aussi qui nous sommes. Souvent, on peut entendre cette phrase... Oh, j'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de grave. Certes, peut-être. Mais ici, la question, c'est de savoir, est-ce que tu as négligé de faire le bien ? Dans un sens, peu importe le mal que tu aurais fait. Nos actes, autant que l'absence d'actes, parlent de nous, de qui nous sommes, et de quel est notre amour envers notre Seigneur Jésus, ou pas. De nouveau, je rebondis sur les deux paraboles précédentes. Est-ce que vous avez vu que dans les deux paraboles précédentes, également, ce que Jésus ou le maître ou le roi reproche, de nouveau, c'est l'absence de quelque chose. L'absence d'avoir préparé suffisamment d'huile. L'absence d'avoir fait fructifier l'or. Et là, l'absence d'avoir fait le bien à l'un de ses plus petits de ses frères. De nouveau, trois paraboles, en fait, qui sont un, Ça aurait été un peu ambitieux de prêcher sur les trois à la fois, mais il faut, elles se répondent les unes avec les autres. Jacques, en 4, chapitre 4, verset 17, c'était le feuillet de cette semaine. Il y avait un verset qui était là-dessus, peut-être tu l'as vu, Daniel. « Si quelqu'un donc sait ce qui est bien, mais ne le fait pas, il commet un péché. » Ah. Ne pas faire le bien est commettre un péché. Même dans le droit français, je n'invente rien, il ne suffit pas de ne pas faire mal. Vous avez déjà entendu parler de non-assistance à personne en danger. C'est aussi un délit au regard de la loi. Et cette semaine, d'ailleurs, il y a eu un, je ne sais pas si vous l'avez entendu aux infos, il y a eu un procès où il y avait un petit enfant qui a été battu pendant des mois et des mois par ses parents, par sa mère et son beau-père, et il en est mort. Les parents ont évidemment été jugés, mais les voisins, les docteurs, tous ceux qui avaient vu, entendu, compris que cet enfant était battu, mais qui n'ont pas réagi, certains ont été relaxés, d'autres condamnés. Ils n'ont pas fait le bien qu'ils auraient dû faire. Vous voyez, bon, ils n'ont rien fait de mal, mais ils n'ont pas fait de bien. Alors oui, servons les autres. Ce texte nous y encourage. Servons, mais non pour mériter et pour gagner notre salut ou quoi que ce soit. Celui-là ne se reçoit que par la foi. Encore une fois, que ce texte ne nous déstabilise pas. Mais comprenons que nos actes ou que l'absence d'actes révèle qui nous sommes envers Jésus. Troisième et dernière partie. Si ce texte doit nous déstabiliser, et j'espère qu'il le fait un minimum ce matin, c'est concernant l'appel criant, urgent, à aimer, à servir, à accueillir, à visiter, à faire preuve de charité ou de fraternité, comme on a pu le mentionner. Et j'espère que ce texte nous bouscule, nous dérange dans notre confort, dans notre attitude et notre amour envers notre prochain, envers nos frères, y compris les plus faibles d'entre eux, nous dit ce texte. Servons les autres pour servir Christ. Et c'est d'ailleurs cette identification entre servir les autres et servir Christ qui a surpris autant les brebis que les boucs. Elles ont été surpris en fait de ce lien entre servir Christ et servir les autres. Et là, c'est le moment de la question piège. Qui sont les plus petits de ses frères? Je cite texto. Les plus petits de ses frères. Qui sont-ils? Alors, il y a plusieurs... Il y a une approche... Il y a ceux qui disent que c'est le prochain, en général. Comme Jésus, certains font d'autres paraboles et dit qui est mon prochain, qui tout le monde. Certains commentateurs disent que c'est les Juifs, le peuple de sang, les frères de sang de Jésus. Certains pensent que c'est les frères au sens des chrétiens. Qui sont ces fameux plus petits de ces frères qui sont au cœur de ce passage? Je m'attendais pas à devoir me poser cette question en étudiant le texte. Et voilà. Et j'ai pesé le pour et le contre. Et face à la question, par exemple, qui dans l'évangile de Matthieu Jésus a-t-il l'habitude d'appeler ses frères? Parce que le mot frère, il a été écrit par Matthieu. Donc Matthieu, quand il a mis frère, si on veut regarder le sens du mot frère, il faut aussi regarder à comment Matthieu utilise le mot frère. Parce que là, ça se tient. Et force est de constater que c'est plutôt ses disciples et ceux qui le suivent. Non, sa famille, il le dit, voilà, les gens, ils arrivent près de Jésus, ils disent, regardez, là-bas, il y a ta mère, il y a tes frères. Il dit, non, mes frères, c'est pas ceux-là, c'est ceux qui sont là, qui m'écoutent. Et combien de fois Jésus utilise le mot « frère » en parlant de ses disciples? À qui s'identifie Jésus-t-il très fort? Il s'identifie aux chrétiens persécutés. Souvenez-vous, quand Saul de Tarse s'est arrêté et Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? C'est moi que tu persécutes. Je m'identifie à ceux que tu persécutes. » Et dans les épîtres, Le mot frère, saluer les frères, dites le premier d'entre eux, c'est un mot qui est utilisé pour désigner les chrétiens, ceux qui suivent Christ. Il semblerait donc, et j'ai passé voilà, du temps, mais je parle avec prudence, je parle avec prudence, mais il semblerait donc qu'il faille ici plutôt comprendre que Jésus désigne ici les plus petits de ses disciples, des chrétiens qui le suivent, de ses enfants, de ceux qui seront persécutés lorsque le jugement final arrivera. Souvenez-vous, c'est le thème principal de ce bloc 24-25 de Matthieu, le discours sur le mont des Oliviers. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement ceux qui prendront position pour, ceux qui aideront, ceux qui donneront à manger, à boire, à ce moment-là, révélera qui ils sont. J'ai été moi-même surpris de réaliser dans un sens que ce texte parlait avant tout de l'attitude du monde, des nations, envers les chrétiens, et pas forcément comme on a l'habitude de lire ce texte, l'attitude de nous, les chrétiens, envers le monde, envers le prochain. À méditer, mais au final, ça ne change rien pour nous. Dans un sens où si Jésus attend des nations qu'elles manifestent bienveillance envers les chrétiens, à combien plus forte raison Jésus considère-t-il que c'est évident qu'entre les chrétiens, il y ait charité, solidarité, amour. Dans un sens, c'est une évidence à méditer. Mais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si ce texte, à mon sens, semble plus désigner la charité, la solidarité envers les chrétiens, les frères de Jésus, les frères, cela ne remet absolument pas en cause, de nouveau, il faut dézoomer un petit peu, cela ne remet absolument pas en cause, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le message biblique d'aimer et de servir son prochain, qui qu'il soit. D'accord ? C'est pas parce que ce texte-là, peut-être, a une orientation un peu différente, qu'il faut, voilà. La Bible est claire là-dessus, aimer son prochain, qui est mon prochain ? Un juif ? Un samaritain ? Un égyptien ? Un romain ? Un français ? Un musulman ? Un athée ? Un rome ? Quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite ? Un grand, un petit ? Un homosexuel, un hétérosexuel ? Aime ton prochain comme toi-même. Ce passage-là, la Bible parle fortement, sans cesse, de l'amour du prochain, du service envers le prochain, qui qu'il soit. Mais peut-être que le cœur de ce passage de Matthieu 25 n'est pas exactement là. Mais voilà, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quoi qu'il en soit, réfléchissons plutôt à qu'est-ce que nous pouvons faire, plutôt que de se dire à qui dois-je le faire exactement et de perdre du temps, de l'énergie sur cette question qui est dans un sens annexe. Quelle est la liste d'actes que mentionne Jésus ? Une liste compliquée ? Des choses hors de notre portée ? Ou alors, les brebis, c'est seulement ceux qui ont fait 3 ONG et fait 4 orphelinats, bah, vous avez le droit de venir... Non, c'est des choses simples ! Des choses simples ! Donner à manger, donner à boire à celui qui est dans le besoin, celui qui manque de tout. Accueillir celui qui est étranger, celui qui est différent, celui qui vient chez nous, un migrant, par exemple, qui nous vient d'Iran et d'ailleurs. Habiller celui qui est nu, redonner la dignité à celui qui l'a perdu, celui qui n'a rien et qui est fragile. Visiter celui qui est en prison, alors prison au sens pénitentiaire, mais celui qui est enchaîné par une dépendance, celui qui est enchaîné par la maladie, par la solitude, celui qui aspire à la vraie liberté, ça élargit beaucoup. Et les applications, elles sont nombreuses. Ne faisons pas de mal, mais ne négligeons pas de faire le bien. Hein, d'aimer notre frère, notre sœur, notre prochain, notre voisin, notre collègue, faites compléter la liste. Et souvenez-vous que c'est des actes qui sont à notre portée. Est-ce que vous aimeriez bien aller partager un verre d'eau, aller boire un coup avec Jésus-Christ ? Ce serait cool, moi j'aimerais bien. Est-ce que vous voudriez le servir, lui donner un coup de main à Jésus? Ça serait chouette de faire ça, de pouvoir faire ça. Ou alors si on avait son adresse, il habite 12 rue des Melons à Cavaillon, tac, on irait tout de suite après. Si vous avez envie de faire ça, alors faites-le à l'un de ses plus petits de ses frères. Et Jésus sera tout autant glorifié que si on allait le visiter je ne sais où. Si vous voulez servir Christ, servez le plus petit de ses frères. Et si c'est vous qui êtes dans ce cas, enfin, on ne se connaît pas à 100%, mais si c'est vous qui êtes dans ce cas, malade, dans le besoin ou je ne sais quoi, alors il y a un encouragement dans ce passage aussi, vous l'avez vu, c'est que Jésus s'identifie à l'un de ses plus petits de ses frères, à vous. Jésus ne vous a pas abandonné, il s'identifie à vous et il souffre avec vous. Voilà un beau message d'encouragement également de ce passage. Tous ces actes d'amour sont là, non pour gagner notre salut, mais pour servir Christ. Et pour témoigner que notre foi est vivante. Car si le salut ne se reçoit que par la foi, il ne se vit que par l'intermédiaire d'une foi vivante. Une foi morte peut-elle sauver ? Non. Le salut se reçoit par la foi vivante. Jacques, l'apôtre, voilà, est le premier à nous challenger, à nous titiller là-dessus. Il dit, mes frères, mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? Et chacun d'entre nous quasiment est capable de le dire. À quoi ça lui sert ? À quoi ça te sert s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Moi, dit Jacques, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. C'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Alors oui, mettons en œuvre notre salut. C'est pour ça que nous avons été rachetés. Mettons-le en œuvre et montrons ainsi que notre foi est vivante. Et c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est Jean qui nous le dit, que le monde verra que nous sommes chrétiens. Et c'est ma prière pour nous tous, ici à Cavaillon, que notre église, que notre communauté puisse être connue pour cela. Mais ça serait pas chouette? Ah ouais, à Cavaillon, bah justement, c'est une église. Qu'on puisse être connu pour ça, pour que cette solidarité, cette charité, cet amour puisse être notre marque de fabrique. Et que l'on puisse être connu pour cela. Et là, il me faut, à titre personnel, vous demander pardon parce que je ne suis pas parfait, irréprochable sur ce point. Mais je prie que cela puisse devenir notre marque de fabrique et le reflet de notre amour vivant et vibrant pour Jésus. Car je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.